Donc, ce que je vous propose, c'est de répondre à vos questions, si vous en avez. Nous sommes là à votre disposition.
Peut-être une question un petit peu simple, je ne sais pas. Simplement, l'étude porte sur le cortex, une partie précise du cerveau. Je voulais savoir qu'est-ce qui a défini cette partie-là et pas une autre pour faire une transplantation.
Le choix du modèle, on voulait travailler sur un modèle où on connaît les symptômes. Donc on sait que le cortex moteur, vous savez, au niveau du cerveau, au niveau du cortex, vous avez plusieurs régions. Vous avez une partie du cerveau cortex qui est responsable de la vision. Une partie, c'est le cortex moteur, donc vous avez différentes régions et les symptômes sont plus ou moins mesurables. Donc le cortex moteur, c'est une région où on peut mesurer facilement les déficits provoqués par la lésion.
On enregistre, je vous demande d'attendre les victimes.
Oui, non, bah moi j'ai une question simple. Je veux savoir, est-ce qu'il y a des cellules souches dans toutes les parties du cerveau, justement, ou bien uniquement dans le cortex ou je ne sais quoi?
Ah, c'est peut-être Valérie Couronnant qui va pouvoir répondre.
Ah, des cellules souches, on en trouve dans une région principalement, qui est une toute petite zone qu'on appelle la région sous-ventriculaire. Et on en trouve alors quelques-unes aussi au niveau de la structure, d'une des structures qui intervient dans la mémoire, qui est l'hippocampe. Et en dehors de ça, les cellules souches sont très très rares, voire inexistantes.
Au sein du cerveau, bien entendu.
Au sein du cerveau, hein, bien sûr. Alors, je dis rare ou inexistante, on me demande qu'est-ce qui provoque le fait qu'il y ait des cellules souches. Alors, rien ne les provoque vraiment. C'est que, en dehors de ces deux structures dont j'ai parlé, on n'arrive pas à isoler vraiment de formation de nouveaux neurones. Alors, on ne sait pas si c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de cellules souches, je pense qu'il y en a peu, on a déjà essayé d'en extraire ailleurs, hein. Ou alors c'est parce que ces cellules n'arrivent pas à se multiplier dans ces autres zones du cerveau.
Je vais vous demander d'attendre le micro parce que Mendes France enregistre la soirée. Merci.
Oui, bonsoir. Je voulais savoir, dans le cadre de la maladie de Parkinson, étant patient moi-même, si la thérapie des cellules souches est une suite logique d'une intervention d'un type d'une chirurgie cérébrale profonde.
Ça, je vais certainement laisser la parole à mon collègue Jean-Luc Huéteau.
Oui, alors le fait d'être traité par stimulation cérébrale profonde n'exclut pas la possibilité ultérieure de pouvoir bénéficier d'une avancée thérapeutique comme l'implantation de cellules souches. Hein. Le principe de la stimulation cérébrale profonde, pour ceux qui ne le savent pas, ça consiste à implanter des électrodes dans certaines zones cibles du cerveau. Dans le Parkinson, c'est en l'occurrence une petite structure qu'on appelle le noyau subthalamique, dont on pense qu'il joue un rôle important dans la modulation des circuits neuronaux qui sont impliqués dans les symptômes de la maladie. Et en mettant une activité électrique régulière à l'intérieur du système, tout se passe comme si, je dis bien tout se passe comme si, on restaurait le fonctionnement normal des circuits moteurs en tout cas, entre les parties profondes du cerveau et le cortex, et ce qui permet la restauration d'un mouvement à peu près normal. Donc c'est une intervention qui est pratiquée ici et dont on fait bénéficier certains de nos patients. Elle n'exclut pas à l'avenir qu'on puisse bénéficier d'autres techniques plus innovantes, puisqu'on peut retirer les électrodes et le stimulateur comme on le souhaite, hein, c'est ce qu'on appelle la réversibilité de la technique. Voilà, donc c'est plutôt une source d'espoir.
J'aimerais profiter de votre question pour encore appuyer sur le fait que les travaux de ma collègue et d'autres collègues sur le sujet, donc de ma collègue Afsenekaya et d'autres collègues, concernent bien entendu la souris, qui a un cerveau qui est de 2 cm de taille, ce qui fait que les fibres n'ont pas une très longue distance à parcourir. Bon, le fait qu'on ait démontré quand même qu'elles arrivent à le faire est une avancée majeure, mais la distance reste faible. Donc, j'espère que je ne choque personne en disant que la prochaine étape, c'est de faire des essais chez les primates non humains. Donc, ce sera pas à Poitiers, ce sera en collaboration avec d'autres collègues, parce qu'il a une anatomie du cerveau qui ressemble un peu plus à la nôtre. Donc, ce sont des essais longs, lourds, coûteux, qui ne sont pas sans poser, bien entendu, des problèmes éthiques. Et donc, nous avons encore un très long chemin à parcourir, sans parler de nombreuses limitations que notre collègue et médecin Jean-Luc Huéteau a montré à la fin. Nous sommes heureux et confiants des résultats que nous avons obtenus, parce qu'elles étaient au-delà de nos attentes. Mais il reste que ce sont des résultats chez le petit rongeur.
Vous voulez dire que, de toute façon, ça reste sur le plan purement étude fondamentale.
Tout à fait. Afsane Gaïa, Valérie Corona et moi-même, nous sommes des chercheurs. Nous travaillons sur des cellules en culture, sur des modèles animaux. Nous avons fait une avancée dans la recherche fondamentale. Nous sommes en discussion, en étroite interaction avec nos collègues médecins. Nous espérons passer à l'étape supérieure et faire des essais sur les primates non humains. Mais c'est le début d'une histoire. On est au début de l'histoire.
D'accord. Non, je vais poser la question, c'était surtout pour savoir l'espérance d'un délai, le relais d'une thérapie qui existe.
C'est une question classique. Quelle que soit la pathologie et quel que soit le médicament, y compris un médicament pharmacologique, il faut une petite dizaine d'années entre le moment où nous, chercheurs, nous faisons une avancée et entre le moment où, si toutes les étapes sont traversées avec succès, avec ce produit ou avec cette procédure, il faut une dizaine d'années. Donc, que ce soit pour une molécule pharmacologique ou pour une procédure d'intervention, il faut compter une dizaine d'années. Avec la meilleure volonté du monde, nous ne pensons pas avoir fini nos travaux avec nos collègues sur les primates non humains avant au moins 5 ans, vraiment dans le meilleur des cas, parce que ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Il faut étudier aussi l'efficacité à long terme, l'innocuité et tout ce que mon collègue Jean-Luc Huéteau a présenté. Des transplantations dans le cerveau des patients parkinsoniens ont déjà lieu, mais pas avec la proposition que nous faisons. Et avant de changer les habitudes, et avec les problèmes que ces transplantations rencontrent, il ne faut pas espérer voir cette technique appliquée à l'homme avant une petite dizaine d'années.
D'accord. Merci.
J'espère que... Je parle sous le couvert de mon collègue.
Non, mais souligner, comme tu as dit, que c'est une étape normale. Quand vous achetez un médicament en pharmacie, il a subi toutes ces étapes au préalable et qui ont peut-être pris, pour certains de ces traitements, 10 ans et qui ont consisté à des aspects expérimentaux, comme on a vu ici, une évaluation de la sécurité sur des modèles de rongeurs, puis des modèles de singes éventuellement, puis des patients humains non malades, puis enfin des malades. Et tout ça prend du temps. C'est des études qui ont de très grandes contraintes, qui demandent beaucoup de rigueur pour le développement avant qu'on arrive sur le marché et qu'on puisse généraliser pour les autres. Et donc là, on est vraiment dans une phase assez en amont, même s'il y a eu des développements avant chez l'homme.
J'ai deux petites questions à vous poser. La première concernant la croissance des fibres. Les cellules souches arrivent à recréer pratiquement des neurones, les neurones poussent. Est-ce qu'on sait les arrêter? Parce qu'il y a peut-être un moment où il faut que, une fois que les connexions sont établies, tout s'arrête.
Là, les résultats que je vous ai montrés, ce ne sont pas les cellules souches, mais ce sont les cellules embryonnaires. Donc, ce sont des cellules qui se sont déjà différenciées dans une voie neuronale. Par contre, le problème avec les cellules souches, c'est vrai que, comme disait Jean-Luc, si on veut utiliser des cellules souches, à partir des cellules souches, par exemple, si on veut obtenir des neurones dopaminergiques, il faut être sûr que dans la préparation qu'on utilise pour la transplantation, il n'y a pas des cellules immatures, des cellules souches. Parce que ce sont ces cellules souches immatures, donc nos différenciés, qui vont se mettre à proliférer et former des tumeurs. Donc on essaye de purifier, sélectionner les neurones, qui sont des cellules qui sont déjà des neurones. Mm-hmm. Et il faut savoir quand ça devient neurone, donc c'est là, comme tu disais, c'est mortel. Donc là, ils ne vont pas se mettre à proliférer. Donc notre problème, ce n'est pas d'arrêter la prolifération de ces cellules, parce que c'est des cellules embryonnaires, mais Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces cellules prolifèrent et aller se connecter de façon spécifique vers des régions qui sont cibles de ces neurones?
D'accord. Au docteur Jean-Luc Oueto, j'ai retenu que lorsque vous faisiez ou lorsque des expériences avaient été faites en double aveugle, les gens dont le crâne avait été ouvert et non traité avaient des améliorations meilleures que ceux qui avaient été traités.
Ça, alors, c'est le fait de l'effet placebo. Hein.
Alors, est-ce que c'est, je comprends mal l'effet placebo dans ce cas, puisque aussi bien ceux qui ont été traités que ceux qui n'ont pas été traités doivent avoir la même réaction mentale à ce qui a pu leur arriver. Donc, pour moi, il y a une différence entre ceux qui n'ont pas été traités qui se remettent mieux et ceux qui ont été traités qui se remettent moins bien. Et j'aimerais savoir s'il y a une possibilité... simplement du fait d'ouvrir une boîte crânienne, de couper un certain nombre de choses, que derrière, des connexions en meilleur état se mettent en place.
Non, en fait, je n'ai pas forcément été assez loin dans ma présentation pour rester le plus simple possible. Le fait d'endormir quelqu'un, d'ouvrir le crâne comme vous feriez un trou dans un mur, et ensuite le refermer, ne crée aucun dommage au cerveau. Vraiment, et c'est ce qui s'est passé. En revanche, ce qui a fait que les patients qui étaient traités réellement allaient moins bien, c'est que ces patients-là développaient des complications qui étaient liées au fait que chez certains d'entre eux, si le greffon avait bien pris, donc on avait bien atteint notre but, il n'avait pas pris de manière spécifique. Ce qui faisait que ces patients sécrétaient, en fait, avaient des cellules qui sécrétaient la dopamine de manière anarchique et non en rapport avec les besoins, d'où des mouvements anormaux incontrôlés. Et c'est cette non-spécificité qui s'est traduit d'un point de vue clinique par une aggravation de leur état. Donc en fait, on avait atteint notre but, mais il y avait eu un autre problème qui était vraiment ce problème de qu'ils n'avaient pas été capables de reconstituer tout le câblage extrêmement complexe entre les cellules humaines, hein, qui se parlent de manière remarquablement complexe et élaborée. Et c'est ça l'enjeu, en fait. Et comme ils étaient, c'était allé trop loin, ils avaient des complications qui faisaient que ceux à qui on n'avait rien fait, paradoxalement, allaient mieux. Et c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Et c'est pas parce qu'on a été délétère en opérant, c'est pas du tout ça. Voilà, j'ai peut-être pas été assez clair, mais c'était vraiment ça, les enjeux. Soit le greffon n'avait pas pris et il se passait rien, soit quand il avait pris, il y avait une sécrétion anarchique et anormale de dopamine, ce qui était l'objectif qu'on voulait, c'était avoir de la dopamine. Mais comme ce n'était pas spécifique, il se développait des complications, dont des mouvements anormaux, qui dégradaient l'état des patients. Et ceux à qui on n'avait rien fait, forcément, allaient beaucoup mieux. Et entre autres, c'est ce qu'on a appelé l'effet placebo.
Alors, l'effet placebo peut être tout à fait impressionnant. Il y a une étude de début des années 2000 qui a montré que chez des patients parkinsoniens, pour qu'on reste dans le même domaine, à qui on a fait avaler un placebo, à savoir aucune molécule active, et quand on fait de l'imagerie cérébrale pour savoir ce qui se passe dans le cerveau, ben, ces patients parkinsoniens qui ont pris un médicament placebo, il n'y a pas eu d'opération, les neurones qui restaient, les neurones dopaminergiques qui restaient, parce que tous les neurones n'étaient pas détruits, les quelques neurones qui restaient produisaient beaucoup plus de dopamine que d'habitude, et le patient obtenait un effet bénéfique du placebo, parce que ces neurones restants produisaient plus de dopamine. Maintenant, pourquoi les neurones restants produisaient plus de dopamine, c'est une question à laquelle on n'a pas la réponse. Mais ça peut se traduire par des modifications de la chimie du cerveau.
C'est moi qui vais poser une question, bonsoir. En fait, Jean-Luc, tu t'es positionné par rapport à la thérapie cellulaire. Je comprends tout à fait les limites, je les partage. Mais par rapport à la thérapie génique, puisque pendant un moment, elle avait l'air d'être en retard par rapport à la thérapie cellulaire, et puis je vois qu'elle reprend le dessus. Et en particulier, maintenant, on a les études cliniques qui ont démarré, c'est vrai que c'était en Californie, mais est-ce que ça ne serait pas plus contrôlable avec des systèmes inductibles pour mettre au repos le noyau sous-thalamique ou au contraire stimuler le striatum?
Alors, c'est une excellente question. Le principe de la thérapie génique, c'est de dire, par exemple, dans tel système de neurones, il y a telle enzyme importante, qui est une protéine qui a un rôle particulier, qui est déficiente, eh bien, on va prendre, par exemple, un vecteur viral qui va être un messager, et on va lui donner les moyens de modifier et de s'introduire à l'intérieur de la cellule malade pour modifier le patrimoine génétique de la cellule malade pour lui permettre de sécréter normalement l'enzyme qui est déficiente. Eh bien, il y a des expériences aujourd'hui qui ont eu lieu, bien sûr, sur des modèles animaux, sur des primates non humains. En gros, quand on dit primates non humains, c'est pour dire des singes, pudiquement, puisqu'on a un sens de la pudeur, vous savez. Et puis, aussi chez l'homme. Et les premiers résultats chez l'homme ont montré que s'il y a un bénéfice, il ne dépasse guère les 20 à 30% d'amélioration. Ce qui est très en deçà, en tout cas pour la restauration du déficit dopaminergique, de ce que peuvent donner d'autres techniques aujourd'hui, comme celles qui ont été évoquées, comme la stimulation cérébrale profonde. Ça, c'est un exemple. Il y a d'autres exemples où on a mis des facteurs de croissance. Des facteurs de croissance, ce sont des substances qui permettent la prolifération, qui aident à grandir en substance. Et ces facteurs de croissance injectés localement dans des zones qui dégénèrent, soit à l'aide de capsules qui les sécrètent, soit en les injectant directement. Également, on donnait lieu à des études cliniques, en tout cas, et chez les animaux et chez l'homme. Et quand c'était prometteur chez les animaux, chez l'homme, on n'a pas eu d'amélioration de plus de 15 à 20%. Et donc, un ratio bénéfice-risque et une amplitude d'amélioration qui n'est pas acceptable par rapport à d'autres techniques qui existent aujourd'hui pour l'instant. Et c'est ça les vrais enjeux. Ce qui veut dire que c'est pas que c'est pas bien, ça veut dire qu'il y a encore du chemin à parcourir pour perfectionner ces techniques et les rendre beaucoup plus opérationnelles et plus puissantes que ce qu'on a aujourd'hui.
Merci. Juste une petite question de curiosité, puisque l'imagerie permet de mesurer la régénérescence des neurones dopaminergiques, par le placebo. Est-ce que vous avez pu savoir combien de temps dure cet effet
c'est ma collègue Afsane Gaïa qui va répondre.
L'effet placebo.
Alors, l'effet placebo, donc, sous imagerie, si j'ai bien compris ce que vous avez dit, permet de voir une régénérescence des neurones dopaminergiques.
Non. L'effet placebo n'a pas permis une régénérescence des neurones. Il a juste permis aux neurones qui restaient de libérer.
Ah, d'accord.
Alors,
très bien.
Alors, moi, je fais un peu court. Je ne sais pas si mes étudiants ont ce cours-là sur l'effet placebo. Je fais 4 heures de cours sur le placebo. Et l'une des caractéristiques de l'efficacité d'un médicament placebo, c'est que sa durée d'action est très courte.
Voilà, c'est ça. C'était ça ma question.
Alors, un placebo par rapport à un médicament classique, il agit beaucoup plus rapidement, mais il a une durée d'action très courte. Et ce qui est très... Bon, on va pas... C'est pas grave. On va parler un peu de ça. Quelqu'un qui a des troubles de sommeil, qui prend un somnifère, il y a des fortes probabilités qu'il dorme avant même que la molécule active atteigne ses neurones. Parce qu'il est rassuré, il sait qu'il va bien dormir. Quelqu'un qui prend un placebo au lieu d'un anti-inflammatoire ou d'une molécule d'aspirine, ben, il va se sentir mieux, beaucoup plus rapidement que la molécule, si elle l'avait prise, avait son effet. Mais par contre, l'effet placebo dure beaucoup moins longtemps.
Merci.
On va d'autant mieux qu'on attend d'être amélioré. Et donc là, il y a vraiment un rôle de la dopamine qui est dans la dimension de la motivation. Hein, parce qu'on ne l'a pas évoqué ici, mais la dopamine joue un rôle important dans la motivation. Et quand vous espérez être amélioré de manière puissante, même si on vous donne un produit qui n'a pas une action importante, l'action de motivation mentale que vous mettez en place par rapport à cette attente d'amélioration va faire que vous allez être amélioré puissamment. Et ça a été bien démontré par des études récentes. Et ça lève un peu le voile sur le potentialité de l'esprit humain, notamment, et le rôle de la motivation. Vous voyez ce que ça nous fait faire quand on doit gagner de l'argent, etc., par exemple.
J'avais donc des questions à poser. Je pense que je rejoins ce que vous pouvez dire au niveau de la motivation, puisque... comme vous le disiez, le cerveau humain, c'est vraiment une complexité totale. Et il y a tellement de choses au-delà des neurones, ou qui touche les neurones également, je m'interrogeais sur le rôle des émotions et de tout ce que l'on pouvait ressentir au-delà de ce qu'on pourrait appeler des choses plus perceptibles. Il y a plein de choses plus fines aussi, plus sensibles qui se passent au niveau du cerveau. Donc savoir si parallèlement à toutes les recherches menées, il pouvait également y en avoir sur les émotions, sur l'état d'esprit de la personne. Hein. Pour guérir, je pense que ça peut être très important aussi, s'il y a des contrariétés ou au contraire de grandes nouvelles, même tout à fait extérieures à toutes les maladies.
Notre collègue que nous recevons mercredi, Catherine Lezung, va aborder un peu cette question. Aborder la question de quelle est la conséquence de l'anxiété, de la dépression sur la chimie du cerveau. Donc du fait, elle va aborder des questions relatives aux neurosciences comportementales, cognitives et leur reflet au niveau du cerveau.
D'accord. Et pardon, je voulais également vous interroger, puisque toutes les maladies du cerveau connues jusqu'ici ont de toute façon bénéficié de traitements déjà. Donc savoir si vous aviez pu isoler certaines molécules qui avaient des effets dans des cas très particuliers que vous trouviez particulièrement intéressants. Savoir si, avant de poursuivre la recherche pour l'utilisation des cellules souches ou embryonnaires, il y avait également des molécules qui pouvaient être intéressantes. Et, donc notamment, on a parlé de l'interféron à un moment donné, ou je ne sais pas.
Voilà. Ça dépend des maladies neurodégénératives qui ont par exemple des traitements pharmacologiques. Donc il y a des médicaments pour diminuer les symptômes de ces maladies, comme par exemple la maladie de Parkinson. Vous avez d'autres maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Huntington. C'est une autre maladie qui touche une population de neurones qui sont situés au niveau du striatum où il n'y a pas de traitement pharmacologique. Vous avez des dégénérescences qui sont localisées, comme dans le cas de maladie de Parkinson, mais par exemple dans le cas de maladie d'Alzheimer, la dégénérescence est beaucoup plus diffuse. Donc en fonction de la nature de cellules qui est touchée, en fonction de la localisation, donc il y a plus ou moins des traitements, que ce soit des traitements symptomatiques qui diminuent les symptômes de la maladie, ou des traitements qui sont des traitements expérimentaux où on essaye de ralentir ou la dégénérescence des neurones ou remplacer les neurones qui sont en dégénérescence. Donc pour toutes ces maladies, en fonction de la maladie, l'approche et le traitement est différente. Donc il y a des maladies où il y a des traitements pharmacologiques ou il y a des maladies où il n'y a même pas de traitement pharmacologique.
Vous avez parlé d'interférons et mon collègue tout à l'heure a parlé de facteurs de croissance qu'on essaye de mettre dans le cerveau pour essayer de freiner la mortalité des cellules restantes. Et effectivement, il y a de nombreuses pistes. Nous avons orienté la table ronde de ce soir vers la piste des cellules souches, mais on aurait pu l'orienter vers d'autres pistes. Mais on l'oriente aussi vers nos spécialités, vers des choses qu'on comprend le mieux. On communique avec ce qu'on sait. Mais effectivement, il y a de très nombreuses pistes pour guérir, réparer et traiter les nombreuses pathologies affectant le cerveau.
Oui, j'ai une petite question. C'est par rapport à ce que vous avez dit pour les expériences sur les souris. Quand vous dites que vous utilisez des cellules embryonnaires, est-ce que c'est des cellules qui sont déjà bien spécifiques, qui peuvent donner que des cellules dopaminergiques, ou bien c'est des cellules qui pourraient donner d'autres types cellulaires quand même, malgré tout?
Donc, par exemple, si on prend l'exemple des cellules embryonnaires qu'on utilise pour la transplantation dans la maladie de Parkinson, dans le modèle animal, on va prélever une région chez l'embryon qu'on sait que si on laisse l'embryon devenir adulte, ces neurones vont devenir dopaminergiques. Donc, ce sont vraiment des neurones qui sont engagés dans une voie de différenciation de neurones dopaminergiques. Et on ne prélève pas que les neurones dopaminergiques. Donc, on prend la totalité de tissus embryonnaires où vous avez d'autres types de neurones avec d'autres types de neurotransmetteurs, des cellules gliales qui sont nécessaires pour le fonctionnement de cette région qui sont présentes dans le transplant. Mais c'est des cellules, par rapport à la différence avec des cellules souches, les cellules souches peuvent donner naissance à n'importe quel type de cellules. Les cellules embryonnaires, ce sont des cellules qui sont déjà engagées dans une voie de différenciation neuronale et surtout, si ça vient de la région qu'on prélève, des neurones dopaminergiques.
Et aussi, j'ai une autre petite question. C'est comment se fait-il que ces cellules-ci qui sont implantées on mène des prolongements jusqu'au striatum et pas vers une autre structure? Pourquoi est-ce que c'est vraiment bien?
C'est une très bonne question, on ne sait pas. c'est qu'on essaie, on pense, vous savez, chez l'adulte, normalement, les cellules, les axons ne poussent plus. C'est pendant le développement, ces axons naviguent facilement pour trouver leur région cible, mais chez l'adulte, le système est figé dans les connexions pour qu'il n'y ait pas d'aberration, qu'il n'y ait pas de problème. Quand on fait une lésion au niveau du cerveau, on pense qu'on va réactiver certaines molécules qui sont exprimées pendant le développement, et de cette façon, les cellules embryonnaires qu'on transplante vont suivre ces molécules qui sont sécrétées, qui vont les guider vers la région où il faut qu'ils terminent leur développement.
Il ne faut pas oublier que les autres régions aussi n'ont pas subi de dégénérescence des axones. Et donc, la voie n'est pas libre non plus.
Mais votre question met le doigt sur quand même l'un des enjeux et l'une des difficultés de ces traitements. Parce qu'on veut les faire aller à un endroit précis et s'exprimer, se développer à un endroit précis, mais on ne connaît pas tous les déterminants qui les aident à aller vers cet endroit-là. Et donc votre question est cruciale parce que c'est le nœud des progrès qui restent encore à faire. Vraiment.
Oui, une petite précision concernant, pour revenir sur ce qu'a dit la jeune fille là. Concernant le côté émotionnel, le côté, tous ces paramètres dont Jean-Luc Huéteau disait tout à l'heure que l'esprit avait une certaine force, est-ce qu'on peut utiliser toutes ces phases d'anxiété, de doute, de dépression, de tristesse, de joie, enfin toutes les émotions, est-ce qu'on peut les intégrer dans vos études pour justement donner des facteurs d'amélioration des expériences que vous, des recherches que vous menez? J'ai l'impression que cette partie émotionnelle, elle représente un certain pourcentage, point barre, quoi.
Alors je vois pas bien ce à quoi vous faites, ce que vous évoquez. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que il y a plusieurs niveaux pour voir ces questions-là. Quand vous avez une émotion, c'est vraiment le cerveau qui l'exprime. Mais il y a un codage. C'est-à-dire que le cerveau fonctionne quand il vous provoque l'émotion. Il fonctionne avec des codes particuliers, de la même manière ou d'une manière assez proche, mais avec des zones différentes qui s'activent, que quand vous levez le bras pour attraper le verre et le porter à la bouche. Autrement dit, l'émotion a... pour moi, neurologue, un substrat organique et biologique. Elle est sous-tendue par des modifications du cerveau, plus ou moins spécifiques dans des régions de neurones qui sont spécialisées dans la perception et la production de l'émotion. Donc, l'émotion n'est pas déconnectée de l'action et du fonctionnement du cerveau. Maintenant, il y a toute une partie de notre domaine qui consiste à étudier les émotions, essayer d'étudier quelles sont les modifications qu'il y a dans le cerveau qui sous-tendent les émotions. Et là où c'est plus difficile, c'est que l'émotion est beaucoup plus simple que juste de prendre ce verre-là. L'émotion est beaucoup plus élaborée et complexe, et on va aux confins vraiment de la pensée et des choses comme ça, et c'est en ça que c'est difficile. Mais même quand on pense, on imagine, quand on se souvient, que c'est sous-tendu par des modifications du cerveau qui travaillent et qui... Et ça donne simplement le champ de tout ce qui reste à parcourir. Mais il ne faut pas forcément découpler l'émotion et le fonctionnement du cerveau. Quand vous avez une émotion, c'est que votre cerveau fonctionne et que vous vivez et que vous existez. Alors, en retour, que ce qu'on pense et ce qu'on croit est une action sur le cerveau et sur la manière dont on est, c'est incontestable, c'est vrai. Mais il faut essayer de garder un équilibre dans la façon de le voir. Je ne sais pas si j'ai répondu.
Ça voudrait dire qu'il y a deux voies au niveau du circuit dopaminergique. Il y a deux voies bien distinctes, une voie moteur et une voie...
Alors, en fait, d'un point de vue très, très schématique, on considère que tout ça est de manière élaborée et segmentée en des territoires qui sont responsables en gros de l'activité motrice, prendre le verre, le soulever, etc., en des territoires qui sont responsables de l'activité, on va dire, cognitive, faire une opération, réfléchir, et en des territoires qui sont impliqués, je veux dire des territoires du cerveau et dans certaines zones cérébrales, qui sont impliqués dans la vie vie émotionnelle, la gestion des émotions. Mais en réalité, tous ces territoires, ils fonctionnent de manière intégrée. Ces informations sont intégrées et transmises d'un territoire à l'autre, ce qui nous permet d'avoir un comportement relativement harmonieux. Mais ce dont on se rend compte, c'est que dans des situations les plus primitives, par exemple la peur, où vous partez en courant, c'est l'émotion qui prime. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a tout le temps le dessus sur le reste. Voilà. Elle prime notamment quand on est en situation de survie. Et ça, c'est comme ça qu'on s'est développé. Hein. Quand vous traversez la route et que vous entendez quelqu'un qui klaxonne, c'est un signe de danger. Vous avez un grand battement de cœur, une grande sueur, et puis vous partez pour traverser en vitesse en disant « Oh là là, il y a un fou furieux qui arrive ». C'est une émotion, ça permet la survie, ça vous a fait faire un geste moteur qui était salvateur, mais après, la raison reprend le dessus. Et donc, tout ça est intriqué et on ne peut pas forcément distinguer complètement les choses.
Merci.
Je ne sais pas si je réponds bien à votre question.
Oui, merci.
On prend encore deux dernières questions.
Oui, vous imaginez l'espoir pour un malade de Parkinson, ce que vous avez dit en première partie, mais après le docteur Weto nous a un petit peu faussé la
c'est
note.
C'est pour ça qu'on l'a invité.
Non, mais ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que malgré les médicaments ou malgré malgré tout, la maladie continue de progresser, quoi, je veux dire, malgré le traitement, les cellules disparaissent petit à petit, les neurones disparaissent petit à petit. Alors malgré toute cellule ou n'importe, il faut penser, avoir l'esprit qu'il faut réparer au fur et à mesure quoi, que les cellules disparaissent dans le cerveau. Je sais pas.
Le problème, c'est que dans la maladie de Parkinson, on ne peut pas diagnostiquer la maladie très précocement. Donc une fois qu'on a diagnostiqué la maladie, il y a une grande partie des cellules qui sont déjà dégénérées. Donc, bien sûr, il y a des approches complémentaires qui essayent d'empêcher la dégénérescence des neurones restants. Comme a dit Jean-Luc, donc on essaie d'utiliser des substances qui peuvent ralentir ou empêcher la dégénérescence. Et vous avez d'autres approches complémentaires qui permettent, comme on vous a expliqué, remplacer les neurones qui sont en dégénérescence. Donc, c'est-à-dire que comme c'est une maladie qui est diagnostiquée tardivement, donc quand on intervient, déjà, il y a une grande partie des neurones qui sont dégénérés. Et on essaye, en utilisant des approches différentes, essayer de ralentir, comme je vous ai dit, ou diminuer les symptômes de la maladie. Donc, malheureusement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas une approche efficace chez les patients qui peut permettre de ralentir le cours de développement de cette maladie.
Ce que je veux dire, c'est que malgré l'implant, est-ce que ça suffira pour arriver à pallier au manque, quoi? Ou alors il faudra peut-être continuer les médicaments malgré l'implant.
Oui, c'est ce qu'ils font.
Ça, on ne peut pas savoir a priori. C'est un peu prématuré pour nous.
J'ai été désigné comme briseur de rêve. Pardonnez-moi, j'avais le rôle le moins sympa parce que c'est dans les applications, tout ce qu'on vous a montré avant, effectivement, est source d'espoir et fait rêver. Et je suis confronté tous les jours aux patients qui me demandent « mais ça, ce traitement, je le voudrais, c'est pour quand ?» Et quand on est dans ces situations-là, on ne peut pas raconter des histoires aux gens. Et donc, j'essaie simplement de dire que si c'était prometteur, il y avait encore un peu de chemin à faire, et c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Enfin, c'était plutôt le sens de mon message. Hein. Voilà.
Je veux revenir sur une note peut-être que vous avez mentionnée. Je ne sais pas si ça peut paraître indécent ce que je vais vous dire. J'espère que non, parce que ce n'est pas du tout voulu comme ça. Il ne faut pas oublier que quand un patient est diagnostiqué pour la maladie de Parkinson, c'est qu'il y a déjà eu une perte de plus de 80-85% de ses neurones dopaminergiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que jusqu'à avant ces pertes-là, il vivait une vie plus ou moins normale. Quoique maintenant, certaines recherches montrent qu'il y a des signes précliniques. Je ne suis pas médecin, mais on commence un peu à les connaître, mais en vulgarisant, on peut dire que jusqu'à 80-85% de mort neuronale, ou 75%, ça dépend bien entendu des individus, on vit une vie plus ou moins normale. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Que le cerveau est capable de s'adapter à des conditions extrêmes, et il est capable de fonctionner même avec une mort neuronale importante, ou une protéine qu'il ne produit plus, ou des synapses qu'il ne font plus, sans qu'on s'en rende compte véritablement au jour le jour. Donc quand vous dites comment on va faire pour remplacer les neurones au fur et à mesure, ben, peut-être que dans certains cas, en dehors de la maladie de Parkinson, on n'en a pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Que le cerveau est capable de s'adapter. Mais c'est vrai qu'au-delà d'un certain seuil, les capacités d'ajustement deviennent complètement dépassées.
Mais c'est quotidiennement que le malade de Parkinson s'adapte. C'est quotidiennement oui. qu'on s'adapte.
Mais une fois qu'il est diagnostiqué, bien entendu, oui. 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 Tout à fait. Tout à fait. Vous avez compris le sens de mon intervention? Une dernière?
Oui. Alors du coup, c'est vrai que moi, ça me fait penser quand même à la conscience de soi. Donc je me demandais si il y avait des implants qui étaient travaillés aussi avec un travail plus psychologique des patients, c'est-à-dire un accompagnement qui ferait qu'il y ait vraiment un développement de la conscience des cellules et qui puissent vraiment consciemment accompagner cette implantation de cellules. Je ne sais pas si ça existe quelque part ou si envisagé.
Pardonnez-moi, madame, je n'ai pas bien compris ce que vous essayez, quel est le sens de votre question.
Le sens de ma question, c'est qu'on parle d'effet placebo, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un effet de la conscience humaine sur sa régénérescence possible. D'accord. Y a-t-il des expériences scientifiques? Je sais que c'est jusqu'à présent, c'est absolument pas du tout envisagé. Mais est-ce que ça peut être envisagé? Est-ce que ça existe? Qu'il y ait un accompagnement de conscientisation de la personne, du malade, lorsqu'il reçoit une implantation et dans le suivi de cette implantation?
Alors, c'est une question importante. Mais vous avez vu dans tout ce qu'on a dit qu'il y a quand même d'énormes limites, enfin qu'il y a un certain nombre de limites techniques auxquelles on doit faire face. Et en général, quand c'est comme ça, on a tendance, alors c'est les mauvais côtés des scientifiques et des médecins, à beaucoup investir notre énergie à dépasser ces limites au plan technique. Et ce n'est souvent que quand les techniques sont bien élaborées et sont efficaces et fonctionnent, qu'on s'intéresse enfin à la dimension psychologique de cette technique. Donc ce que vous dites est peut-être quelque chose qui arrivera, mais quand le traitement sera opérationnel et qui sera disponible pour la majorité des patients et qu'on pourra en mesurer l'impact réel. Là, enfin, je ne conçois pas qu'on se mette autant en amont à essayer d'évaluer comment les gens ont conscience de leurs cellules souches quand on leur injecte pour essayer d'aller le mieux possible. C'est trop compliqué pour nous. C'est une étape qui doit venir après. Voilà.
Par exemple, pour la dépression, c'est un fait bien établi que certains antidépresseurs fonctionnent mieux. En tout cas, le patient reçoit un bénéfice plus important quand le traitement pharmacologique est accompagné d'une psychothérapie. On va arrêter la soirée sur ça. Merci d'être présents, d'être venus aussi nombreux. Pour ceux qui sont encore motivés, merci. Je vous donne rendez-vous à mercredi. Voilà. Merci. Bonne soirée.